Durant ces années de fièvre et de redéfinition, une des questions les plus débattues sur toute l'île de Montréal est celle du statut et de l'usage de la langue française. Dans la ville de Saint-Léonard, elle se présente sous la forme du libre choix de la langue d'enseignement et une manifestation tourne à l'émeute. Le 9 décembre, le jour même où est déposé à Ottawa le rapport de la commission Laurando-Danton qui recommande l'établissement de districts bilingues au Canada, le gouvernement de l'Union nationale, dirigé par le premier ministre Jean-Jacques Bertrand, annonce la formation d'une commission d'enquête sur la situation du français au Québec, et en 1969, c'est le projet de loi 63.
Bien, écoutez, l'histoire du Bill 63, en fait, elle est assez simple, hein, dans un sens. Simple. Elle commence avec l'histoire de Saint-Léonard et avec la pression que les anglophones font sur Québec pour obtenir un règlement légiféré du problème. Et c'est toujours la même chose, n'est-ce pas? C'est une chose que nous avons fait remarquer. Quand les anglo-protestants, la commission des écoles protestantes de Montréal, empêchait les franco-protestants d'avoir des écoles françaises, il a fallu nous battre, puis on a fini par gagner après 15 ans. Mais jamais le gouvernement de Québec est intervenu pour établir le libre choix et garantir aux franco-protestants le droit à leurs écoles. À ce moment-là, c'était des Canadiens français qui demandaient, ça n'avait pas d'importance. Mais quand les Anglais demandent, ça a de l'importance. Alors le gouvernement Bertrand s'est mis en voie là, de réaliser un projet qui établissait le libre choix.
François-Albert Anger, que l'on vient d'entendre, a été l'un des adversaires les plus virulents de la loi 63, qu'il considérait non seulement comme insuffisante, mais comme néfaste. Saint-Léonard n'était pas le seul symbole pour les nationalistes. Le 28 mars précédent, une manifestation qui réclamait la francisation de l'Université McGill avait été plutôt tumultueuse.
Je suis actuellement sur l'avenue McGill face à l'entrée principale de l'Université McGill. Il y a quelques instants à peine, s'est produite une échauffourée assez grave sur l'avenue McGill face à l'entrée principale. Je viens de voir, à quelques pas de moi, des policiers arrêter deux manifestants et je pense qu'il y aura très bientôt d'autres arrestations. Les policiers sont en motocyclette, il y a des autopatrouilles et de ce côté-ci, c'est-à-dire du côté sud de la rue Sherbrooke sur l'avenue McGill, il y a un grand va-et-vient de policiers. Des manifestants ont saccagé des clôtures, ont lancé des bâtons tout à l'heure sur les cordons de police qui formaient barrière devant l'entrée principale de l'Université McGill.
Le chef de la police de Montréal, Jean-Paul Gilbert, fournit de l'événement une version légèrement différente.
Il est vrai que durant le défilé, rien de spécial ne s'est produit. Mais avec l'expérience que nous possédons à la police, nous savons fort bien ce qui peut suivre à la suite des défilés comme celui que nous avons eu ce soir.
Sur un autre plan, la question de la langue est aussi l'objet d'un débat dans le monde littéraire. Poètes, romanciers et dramaturges, les auteurs prennent position à leur façon. La création, en 1968, au Théâtre du Rideau Vert, de la pièce « Les belles-sœurs » du dramaturge Michel Tremblay, constitue l'un des événements marquants de l'histoire du théâtre québécois. Le langage de la pièce choque les puristes, mais pour l'auteur, l'utilisation du joual, expression popularisée par Jean-Paul Desbiens, alias le frère Untel, est plus qu'une fantaisie. C'est un choix politique.
Je pense qu'à un moment donné, dans l'histoire d'un pays, le théâtre se doit d'être d'abord et avant tout le reflet de la société de ce pays-là. Et on vit actuellement une période assez spéciale au Québec, une période de révolution ou d'évolution, et puis là, comme vous voudrez. Et je pense qu'il était temps qu'on décrive la société telle qu'elle est. C'est vrai que les Français parlent mieux, oui, mais je ne parle pas joual, mais il y a 90% de la population qui parle joual. Et ces gens-là, comme je dis souvent, ont envie de crier leur détresse, puis de, de hurler qu'ils ont mal à l'intérieur. C'est ce que je fais. C'est pour ça que j'écris en joie. C'est des gens que j'aime et que je veux défendre, tout simplement.
Malgré l'usage de la langue populaire dans ses chansons, lors de la présentation du spectacle Hostie Show en mai 1968, Robert Charlebois remportera au Festival du disque de l'année suivante le prix Félix Leclerc pour sa chanson Lindbergh.
Sur Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan American.
C'est un langage semblable qu'utilise Yvon Deschamps pour créer des personnages criant de vérité et véhiculer un humour parfois grinçant, mais jamais gratuit.
Quand j'ai lâché l'école à 13 ans, mon vieux père, il était sur son lit de mort, il dit « Mon petit garçon, je peux pas te laisser d'héritage. » Je m'en doutais un peu à vitesse qu'il buvait. Mais seulement avant de partir, je veux te dire que dans la vie, il y a deux choses qui comptent. Une job steady pis un bon boss. C'est toutes les maudites affaires du million que ça donne, ça. Une job steady pis un bon boss. Là, il est parti. Fait que moi, je me suis en allé m'engager à la shop. J'ai dit, la job que vous annoncez, c'est une job steady, ça? Ils ont dit oui. Oh, ben, j'ai dit, vous devez être un bon boss.
Mais ce personnage du petit Québécois, subjugué par l'autorité, représente une espèce visiblement en voie de disparition. Le chemin d'une plus grande liberté, aussi bien individuelle que collective, passe notamment par le développement de l'enseignement supérieur et de l'activité culturelle. Deux nouvelles institutions s'emploient à combler les lacunes en ce domaine. Ainsi, en 1968, l'État crée Radio-Québec, qui, en dépit de son nom, fait essentiellement de la télévision éducative. La même année voit apparaître l'Université du Québec, première université publique chez nous, et qui offre l'originalité d'être une université multicampus formée d'un certain nombre de constituantes. Celle de Montréal, l'UQAM, ou Université du Québec à Montréal, devient rapidement la plus importante. Elle s'installe dans l'ancien quartier latin des années 1920, qu'elle contribue ainsi à ranimer puissamment. L'est de la ville connaît d'ailleurs une période de grand développement et de profond rajeunissement à cette époque. Un peu plus tard, le complexe Desjardins s'élèvera juste en face de la place des Arts. Alfred Rouleau, un des principaux dirigeants du mouvement Desjardins.
Quand on a décidé de faire la place Desjardins, ça se réfère en bonne partie à une espèce de volonté d'affirmer les possibilités du Québécois francophone dans un secteur d'activité où il a été totalement absent. La possibilité de mettre en valeur l'ensemble de nos talents francophones dans une réalisation d'une grande dimension.
Tant sur le plan de la politique provinciale que sur celui de la politique municipale, des changements marquants se produisent. Le 29 avril 1970, le Parti libéral prend le pouvoir et Robert Bourassa devient Premier ministre du Québec. Quelques mois plus tôt, soit en décembre 1969, l'Assemblée nationale avait adopté une loi créant la communauté urbaine de Montréal. En 1971, la population de l'île de Montréal atteint presque les 2 millions, alors que celle de la ville proprement dite est d'un peu plus d'1 200 000 habitants. C'est vers cette époque que la ville commence à perdre de ses citoyens au profit des banlieues. Conséquence d'une immigration de plus en plus abondante et variée, le pourcentage de la population montréalaise d'origine française diminue légèrement, alors que s'accroît celui des Montréalais d'origine autre qu'anglo-saxonne. Sur le plan économique, l'importance du secteur manufacturier décroît au bénéfice du tertiaire à partir du milieu des années 60 et la main-d'œuvre commence à ressentir les effets de l'automatisation. Mais c'est sur le plan politique que se prépare à la fin des années 60 et au début des années 70 la plus grande transformation au Québec, dont là aussi, Montréal représentera une sorte d'avant-garde. Aux élections du mois d'avril 1970, le Parti québécois, créé en 1968 pour promouvoir l'indépendance du Québec, réussit à faire élire 7 députés, dont 6 sur l'île de Montréal. Les indépendantistes les plus impatients continuent à recourir à la violence. Leurs activités déplaisent au Premier ministre du Canada, Pierre-Éliott Trudeau, qui déclare le 19 octobre 1969 « Ça a assez duré les folies depuis quelques années. Nous, on veut faire un pays uni et prospère. Fini les folies. » Les événements d'octobre 1970 lui fournissent l'occasion de tenter de mettre fin à ce qu'il appelle des folies. Le 5 octobre, coup de tonnerre. Les membres du Front de libération du Québec enlèvent l'attaché commercial du Haut-Commissariat de la Grande-Bretagne à Montréal. On entre alors en plein drame. Les ravisseurs font connaître leurs exigences dans un communiqué qui commence par la déclaration suivante.
Front de libération du Québec. Manifeste. Le Front de libération du Québec n'est pas le Messie, ni un Robin des Bois des temps modernes. C'est un regroupement de travailleurs québécois qui sont décidés à tout mettre en œuvre pour que le peuple du Québec prenne définitivement en main son destin. Le Front de libération du Québec veut l'indépendance totale des Québécois, réunis dans une société libre et purgée à jamais de sa clique de requins voraces, les big boss patronneux et leurs valets qui ont fait du Québec leur chasse gardée du cheap labor et de l'exploitation sans scrupules.
Quelques jours plus tard, c'est l'enlèvement de Pierre Laporte, ministre du Travail, dans le cabinet Bourassa, qui se terminera tragiquement, car le ministre sera tué et son corps retrouvé dans le coffre d'une voiture abandonnée. Le premier ministre du Québec et le maire de Montréal, qui est alors en campagne électorale, demande l'aide du gouvernement du Canada. Au cours de la nuit du 16 octobre, le gouverneur général émet une proclamation qui déclare l'état d'insurrection appréhendé et la mise en vigueur des mesures de guerre. Pour le premier ministre Trudeau, la situation justifie le recours à une telle loi d'exception.
Les heures que nous vivons sont d'une gravité exceptionnelle. Un groupe d'extrémistes a décidé de s'attaquer par la violence et le terrorisme à la liberté et à l'unité du pays. Des menaces pèsent sur la vie de deux hommes innocents. Ces questions sont extrêmement sérieuses et je me dois de vous entretenir de la situation et des mesures que le gouvernement a prises pour y faire face. Ce qui s'est produit à Montréal au cours des deux dernières semaines n'est pas sans précédent. Cela est arrivé ailleurs dans le monde à plusieurs reprises. Cela pourrait arriver aussi dans d'autres régions du pays. Mais les Canadiens ont toujours cru que de tels événements ne pourraient survenir ici. C'est pourquoi nous en sommes si bouleversés.
Le gouvernement du Premier ministre Trudeau a invoqué cette nuit la loi sur les mesures d'état de guerre qui lui permet de prendre des mesures extraordinaires pour faire face efficacement à la situation qui prévaut au Québec et en particulier à Montréal, à la suite de l'enlèvement de Messieurs Cross et Laporte par le Front de libération du Québec. Au terme de cette loi, le gouvernement central peut faire procéder par les forces policières ou les forces armées à des perquisitions, recherches et arrestations sans mandat. Dans la nuit, son gouvernement a été saisi de lettres émanant de M. Robert Bourassa et du maire Jean Drapeau de Montréal concernant un état d'insurrection appréhendé. Fort de ces instruments, le gouverneur général du Canada a approuvé l'émission d'une proclamation en vertu de la loi sur les mesures d'état de guerre. À Montréal, dès que la loi sur les mesures de guerre a été décrétée, les policiers en alerte depuis le début de la nuit se sont lancés dans une série de perquisitions à la grandeur de la métropole et de la banlieue.
Un bilan fourni à la Chambre des communes le 3 février 1971 fait état de l'arrestation de 497 personnes, dont 465 seront relâchées sans qu'aucune accusation ne soit portée contre elles. On se demande quel était le but visé par des arrestations aussi massives, compte tenu du fait que les deux cellules reliées aux enlèvements de Cross et de Laporte ne regroupaient même pas une douzaine de personnes. La vague d'arrestations semble avoir eu pour objectif essentiel de semer la peur chez les éléments souverainistes. La phase aiguë de la crise d'octobre s'achève avec la libération de Cross le 3 décembre 70 et l'arrestation de membres de la cellule Chénier à la fin du même mois. Et si cela marque la fin de la violence dans l'ordre politique, la contestation et l'agitation se transportent dans le domaine des relations de travail, notamment dans le secteur public. En mars 1972, l'impasse dans les négociations entre le gouvernement du Québec et les syndiqués des secteurs publics et parapublics entraîne une grève générale qui touche l'ensemble des fonctionnaires, du personnel de l'enseignement et du personnel hospitalier. Les chefs des trois grandes centrales syndicales, la Fédération des travailleurs du Québec, la Confédération des syndicats nationaux et la Centrale de l'enseignement du Québec, demandent à leurs membres de ne pas obéir à la loi leur ordonnant de reprendre le travail. Condamnés à la prison, Marcel Pépin, Louis Laberge et Yvon Charbonneau se constituent prisonniers le 9 mai. Ils demeureront derrière les barreaux jusqu'au 16 mai 1973. Tout au long de ces événements, les syndiqués appuient sans réserve et ouvertement leur chef. La contestation des artistes précède généralement les revendications des autres secteurs de la société. Et les artistes québécois ne font pas exception, eux qui ont longtemps porté le flambeau du nationalisme et du renouveau social. Ainsi, dans la salle du Jésus, le 27 mars 1970, la poésie est à l'honneur durant toute une nuit.
Que la vie et la poésie soient la même sacrée affaire sacrée. Que la lettre soit dans l'esprit et l'esprit dans la lettre. Que la poésie soit ici et là. Que tout le monde soit poète.
Tout le monde ne peut pas être poète. Malgré le souhait de Raoul Duguay, pour qui poésie, chanson et musique font partie d'un même univers. Un univers bien différent de celui de Paul Chamberlain, philosophe de formation.
Je dis ce que je vois. Je vois deux peuples. Ils évoluent présentement l'un dans l'autre, mais leur destin est opposé. Car un abîme sépare le peuple des porcs du peuple des enfants. Ouvrez les yeux et choisissez.
Et c'est sur une musique de François Cousineau, une chanson de Gilbert Langevin, Le temps des vivants. Bravo! Que finisse le temps des victimes, passe le temps des abîmes. Il faut surtout pour faire un mort du sang, des nerfs et quelques os. Que finisse le temps des taudis. Passe le temps des maudits, il faut du temps pour faire l'amour et de l'argent pour les amants. Vienne le temps des vivants, le vrai visage de notre histoire. Vienne le temps des victoires et le soleil dans nos mémoires.
Pauline Julien remportera la même année le Grand Prix du disque de l'Académie Charles Cros de Paris pour son disque « Suite québécoise ». Elle est alors à la chanson ce que Michel Lalonde est à la poésie. L'œuvre la plus connue de cette dernière est l'un des poèmes les plus diffusés dans le Québec des années 1970, Speak White.
Speak White, c'est une langue universelle. Nous sommes nés pour la comprendre avec ses mots lacrymogènes, avec ses mots matraques.
Nous savons que nous ne sommes pas seuls.
Le poète Gatien Lapointe prend lui aussi la parole lors de cette nuit de la poésie de mars 1970 pour dire son attente d'un printemps politique au Québec. Puis, ce sera un silence long de 10 ans.
Le printemps du Québec. Est-ce que c'est le printemps? Pourtant, je le dis, je l'affirme. Pour y croire plus, pour qu'il devienne vrai. Je l'affirme pour l'obliger à devenir vrai.
Cette nuit de la poésie est aussi l'occasion de rappeler que les poètes ne craignent plus de trouver leur inspiration dans l'actualité. Poésie plus urbaine, plus près des vrais problèmes, plus intimiste aussi, ce qui fait que chacun peut s'y reconnaître. Cela donne parfois une poésie de tous les jours que l'on retrouve dans les chansons, comme celle du groupe Beau Dommage, que l'on peut entendre le 27 décembre 1974 à l'émission de télévision Appelez-moi Lise. L'animatrice Lise Payette a atteint la notoriété dans les années 1960 avec Place aux femmes, une émission de radio. En 1976, elle se portera candidate du Parti québécois lors des élections générales. Et une fois élue, elle sera nommée ministre de la consommation, des corporations et des institutions financières. Mais à la veille de 1975, c'est au groupe Beau Dommage qu'elle prédit du succès.
C'est probablement le groupe qui connaît actuellement le plus de succès au Québec. Et je pense qu'on peut prédire que l'année 75 sera peut-être leur année.
Tous les palmiers,
oh là là.
Bon, oui, c'est pareil quand je serai parti. Vous pourrez m'écrire ici.
67, 65, Vanier, Montréal. 67, 65, Vanier, Montréal.
60. Nous ne sommes plus à la télévision, mais sur le Mont-Royal, où l'on célèbre la Saint-Jean de 1975. À l'occasion d'un grand spectacle, animé par Lise Payette, le chanteur Gilles Vigneault interprète pour la première fois ce qui deviendra une sorte d'hymne national des Québécois, comme l'avait été en son temps « Regarde avec amour » la chanson-thème du 300e anniversaire de Montréal. La question de la langue demeure encore d'actualité et suscite toujours des craintes chez les Québécois francophones. Mais en ce soir de fête, on peut bien en rire, comme le fait l'humoriste Yvon Deschamps.
Répétez après moi. Je fais le serment solennel. Que pour la survie de la nation. À partir de maintenant et pour un an, je parlerai français seulement. Eh bien, le problème de la langue est réglé, mesdames et messieurs.
La Saint-Jean sur la montagne soulève plus d'enthousiasme que l'ouverture des Jeux olympiques de Montréal le 17 juillet 1976. Les médias ont tellement insisté sur le coût des installations jugées exorbitantes que les Montréalais sont plus impressionnés par cette question que par la présence des 9564 athlètes qui participent aux compétitions. Pourtant, la cérémonie d'ouverture, présidée par la reine Elisabeth, accompagnée du président du Comité international olympique, Lord Killannon, est grandiose.
Je te... Yes, I love you. Ich liebe dich, mio Liebe. Je t'aime, I still miss you. So I need your amour. Pour toi, tout mon pays, ami, cœur et saison, pour t'accueillir ici à sa façon.
J'ai l'honneur d'inviter Sa Majesté à proclamer l'ouverture des Jeux du 21e Olympiade de l'ère moderne.
Peu de temps après la clôture des Jeux olympiques, les Montréalais, comme d'ailleurs l'ensemble des Québécois, sont invités à participer à un autre type de compétition autrement plus significative pour l'avenir du Québec. En effet, le Premier ministre, Robert Bourassa, déclenche des élections générales pour le 15 novembre. Les négociations constitutionnelles avec le gouvernement fédéral seront un des thèmes majeurs de cette campagne particulièrement acharnée. Et le soir du 15 novembre, les Jeux sont faits.
L'élection dans Beauce-Nord de Ouellette du Parti québécois, dans Taillon de René Lévesque, chef du Parti québécois, dans Sainte-Anne de Lacoste du Parti québécois également. Eh bien, nous avons annoncé la défaite de M. Robert Bourassa, l'élection de M. René Lévesque, la formation d'un nouveau gouvernement, ou du moins l'élection d'un gouvernement péquiste majoritaire.
Écoutez, c'est vraiment l'euphorie ici. M. Lévesque vient de faire son apparition. Il avait été précédé par quelques-uns des députés qui ont été élus, que l'on pense à Camille Lorrain ou à Lise Payette qui vient de se présenter, de Claude Charron. Et maintenant, c'est le chef du Parti québécois, le futur premier ministre, qui s'est présenté ici. Il est littéralement envahi par la foule des photographes.
Au centre Paul Sauvé, des milliers de partisans du Parti québécois suivent avec un enthousiasme grandissant l'annonce des résultats du scrutin. Le PQ remporte finalement 71 des 110 sièges, alors que le Parti libéral en a 26 et l'Union nationale 11. René Lévesque, le chef du Parti québécois, est le premier surpris de l'ampleur de la victoire.
J'ai jamais pensé que je pouvais être aussi fier d'être Québécois que ce soir. On n'est pas un petit peuple, on est peut-être quelque chose comme un grand peuple.
La question de la langue demeure un sujet épineux et capital au Québec. Et le nouveau gouvernement décide de modifier la législation qui la concerne, ou plutôt de faire adopter une toute nouvelle loi. Le 1er avril 1977, le ministre d'État au développement culturel, Camille Lorrain, rend public le livre blanc sur la langue française. Le Québec que nous voulons construire, y affirme-t-on, sera essentiellement français. Afin d'y parvenir, il faudra remplacer la loi 22, adoptée en 1974, qui, tout en déclarant le français langue officielle, reconnaît à l'anglais le statut de langue nationale au même titre que le français. La loi 101, sanctionnée le 26 août 1977, fait du français la seule langue officielle du gouvernement. Camille Lorrain, que l'on a surnommé le père de la loi 101.
Je pense que la charte arrive à point nommé pour accélérer, pour intensifier, donner un coup de pouce nécessaire et urgent à ces changements.
Si la question de l'indépendance politique devient de plus en plus présente dans la société québécoise, celle de l'affirmation des droits de la femme fait aussi la manchette. En 1978, c'est la publication du rapport que coiffe ce titre. Pour les femmes, égalité ou indépendance. 3 ans auparavant, l'Organisation des Nations Unies avait décrété l'année 1975 Année internationale de la femme. Francine Pelletier, de la revue La Vie en rose, dont la publication débute en 1980.
D'abord, je pense que le début
du mouvement des femmes contemporains a été vraiment une rencontre fulgurante et très enthousiasmante pour la majorité des femmes qui y participaient. C'était vraiment découvrir qu'on pouvait être une femme dans cette société et avoir du plaisir et être valorisée et se reconnaître en tant que femme, s'identifier en tant que femme. Je pense que c'est le grand acquis du mouvement des femmes.
La nouvelle et vigoureuse affirmation des droits de la femme suscite un large consensus, même si elle crée quelques remous dans divers milieux. À Montréal, la présentation de deux pièces de théâtre déclenche une polémique animée. La Nef des sorcières, œuvre de plusieurs auteurs, dont Nicole Brossard et France Théoret, est créée en 1976. Deux ans plus tard, avec Les fées ont soif, Denise Boucher provoque de vives réactions. Le Théâtre du Nouveau Monde, où la pièce est jouée, est le siège de nombreuses manifestations et une pétition de 12 000 noms exige l'interdiction de la pièce. Mais l'affaire fait long feu.
Sur le coup, tu comprends, je ne me suis pas sentie attaquée, moi. Ça prend du temps avant que tu réagisses à ça. Je lisais les articles dans les journaux, les déclarations du juge, puis je savais pas qu'est-ce qu'il y avait là. Puis une semaine après, j'ai relu les articles, et là, j'ai trouvé ça infâme. Là, je me suis sentie attaquée, et je me suis sentie... Et j'ai été sûre d'une chose, c'est qu'on on m'a attaquée, moi, je sers de prétexte, c'est sûr. Je suis un bouc émissaire, ils ont attaqué une fille, une personne qui n'est pas connue, une femme, parce que tu comprends, ils ne peuvent plus attaquer Michel Tremblay, ni Régent Ducharme.
Mais un tout autre débat s'amorce qui, lui, ne laissera personne indifférent au Québec, ni même au Canada. Comme il avait été prévu dans le programme du Parti québécois, les citoyens du Québec sont invités à accorder à leur gouvernement le mandat de négocier l'entente proposée entre le Québec et le Canada. Cette entente est ainsi définie dans le préambule de la question référendaire soumise aux électeurs québécois le 20 mai 1980. Le gouvernement du Québec a fait connaître sa proposition d'en arriver avec le reste du Canada à une nouvelle entente fondée sur le principe de l'égalité des peuples. Cette entente permettrait au Québec d'acquérir le pouvoir exclusif de faire ses lois, de percevoir ses impôts, et d'établir des relations extérieures, ce qui est la souveraineté, et en même temps de maintenir avec le Canada une association économique comportant l'utilisation de la même monnaie. Deux groupes se constituent alors. Celui du oui, avec René Lévesque, et celui du non, regroupant surtout des libéraux autour de leur chef, Claude Ryan. Le premier ministre du Québec précise ce qui arrivera si son option est acceptée.
La souveraineté et l'association devront donc se réaliser sans rupture et concurremment après que les Québécois nous en auront donné le mandat par voie de référendum.
Le 20 mai 1980, les Québécois répondent non à 58,2%. Un des premiers à réagir au résultat est le premier ministre du Canada.
Ayant moi-même combattu depuis si longtemps pour le triomphe de la cause canadienne, je devrais me réjouir sans réserve des résultats obtenus. Pourtant, je ne peux m'empêcher de penser à tous ces tenants du oui qui se sont battus avec tant de conviction et qui doivent ce soir remballer leurs rêves et se plier au verdict de la majorité. Et cela m'enlève le goût de fêter bruyamment la victoire. À mes compatriotes du Québec, blessés par la défaite, je veux simplement dire que nous sortons tous un peu perdants de ce référendum. Si l'on fait le décompte des amitiés brisées, des amours écorchés, des fiertés blessées, il n'en est aucun parmi nous qui n'ait quelques meurtrissures de l'âme à guérir dans les jours et les semaines à venir.
Mais pour René Lévesque, ce n'est que partie remise.
Chers amis, si
Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. Gens du pays. Allez, c'est votre tour. À la prochaine.
Le résultat de ce référendum engendrera chez beaucoup de citoyens, particulièrement parmi les artistes et les intellectuels qui s'étaient impliqués à fond, une morosité qui sera lente à se dissiper. Et pour un temps, on peut croire à un recul durable du nationalisme. Le prochain grand rassemblement de foule à travers le Québec en sera un religieux. Pour la première fois de son histoire, Montréal accueille, après Québec, le chef de l'Église catholique, le pape Jean-Paul II, qui préside à la célébration d'une cérémonie eucharistique au Parc Jarry le 11 septembre 1984. L'archevêque de Montréal, Paul Grégoire, profite de la circonstance pour rappeler les débuts mystiques de la ville.
Vos premiers pas en terre canadienne vous ont conduit le long du Saint-Laurent. Vous êtes aujourd'hui à Montréal, dans cette ville Marie, née d'un désir missionnaire, dans la région de Montréal, avec tous les diocèses avoisinants. Vous êtes dans un centre d'où la foi a rayonné dans l'ouest du Québec et au-delà. Je suis heureux d'être aujourd'hui chez vous, à Montréal. Et j'en bénis le Seigneur. Je pense au fondateur de l'ancienne ville Marie. Ils ont placé ici, au pied du Mont Royal et près des rives du Saint-Laurent, une semence qui est devenue un grand arbre.
Le Montréal qu'a vu le pape est une ville qui se cherche de nouvelles orientations. Elle a perdu son titre de métropole du Canada au profit de Toronto, où plusieurs grandes compagnies ont déménagé leur siège social. L'économie se réorganise à l'échelle planétaire et d'importantes usines ferment leurs portes sur l'île de Montréal, notamment des raffineries. Mais la construction de nouveaux édifices bat son plein et on tente de revitaliser certaines artères traditionnellement commerciales. Sur le plan démographique, la décennie 80 voit l'arrivée de milliers d'immigrants qui, désormais, viennent en majorité des Antilles, d'Asie, de l'océan Indien, du Moyen-Orient ou même de l'Océanie. Avec l'accroissement rapide de ces minorités dites visibles, le visage de Montréal devient nettement plus cosmopolite. La majorité franco-québécoise éprouve le besoin de les attirer à elle pour favoriser leur intégration. Ces nouveaux venus peuvent être notamment témoins de l'impressionnante démonstration populaire qui suit l'échec de l'accord du lac Meech, alors que la Saint-Jean reprend, le 25 juin 1990, la tradition longtemps interrompue des grands défilés. Près de 300 000 personnes participent en effet à cette immense manifestation, tout à la fois d'affirmation et de protestation, dans l'après-midi du 25, cependant que le soir, au spectacle que préside le comédien Jean Duceppe sur l'île Sainte-Hélène, plus de 100 000 se réunissent.
Le Québec est notre seul pays, c'est le seul endroit au monde où nous puissions travailler à notre bonheur collectif dans la paix. Loin, loin des marchandages mesquins, loin des ententes convenues dans le secret et la confusion. Mais dans les jours qui vont suivre, dans les mois qui vont suivre, nous devrons travailler tous très fort pour que le Québec puisse assumer son destin en toute liberté. À tous ceux et celles qui vivent au Québec avec nous, qui veulent vivre au Québec, qui veulent rester au Québec, quelle que soit leur nationalité, nous les invitons à bâtir avec nous la nouvelle société du Québec, le Québec nouveau. Cependant, il faudra toujours se rappeler que l'avenir du Québec ne se décidera plus jamais à Terre-Neuve, au Manitoba ou ailleurs.
Ces réjouissances ne font pas disparaître pour autant les problèmes. L'avenir du français au Québec et à Montréal en particulier en inquiète plusieurs. Et pourtant, la qualité de la langue parlée s'améliore constamment, à tel point qu'on peut lui rendre hommage, comme le fait Pierre Bourgault.
Il y a encore plein de gens qui continuent à dire que les jeunes parlent mal au Québec. Or, moi, je pense à peu près exactement le contraire. Ils ne parlent peut-être pas la meilleure langue du monde, mais en tout cas, ils parlent une langue bien meilleure que celle que nous parlions à leur âge. Ils ont un meilleur vocabulaire que nous et plus étendu. Ils ont une syntaxe qui n'est peut-être pas la meilleure du monde, mais qui est meilleure que la nôtre. Et c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils vivent davantage en français. Ils voient du français, ils entendent du français. Une langue, ça n'est pas une abstraction, il faut vivre avec. Mais surtout, les jeunes parlent bien davantage que nous parlions à leur âge. Et c'est ça qui est important. Parce qu'une langue, ça n'est pas fait que pour écrire des chansons ou écrire des poèmes. Une langue, ça n'est pas non plus qu'un simple instrument de communication, fût-il privilégié. Et ce que les jeunes ont compris, c'est que la parole, c'est d'abord et avant tout, et surtout peut-être, instrument privilégié de la liberté.
Que deviendra Montréal au cours des prochaines décennies? Jean Doré, élu maire de la ville en novembre 1986, l'imagine ainsi.
Moi, je pense que ces 10 prochaines années vont être marquées autour d'un certain nombre d'événements importants pour Montréal. D'abord, je pense un changement important dans l'aspect physique de cette ville. On va sûrement voir au cours des 10 prochaines années les Montréalais retrouver le contact avec l'eau. Je vois aussi une ville qui, au plan international, sera dotée d'instruments qui vont lui permettre de davantage rayonner, non seulement sur le plan économique, mais de par sa propre situation géographique. Je vois aussi une effervescence culturelle. La créativité très très forte au plan culturel va, je suis convaincu, s'épanouir complètement au cours de cette décennie.
Montréal, qui depuis les origines de la Nouvelle-France a constitué une sorte d'État dans l'État, demeure le moteur économique et le foyer culturel principal du Québec. Certes, dans cette époque de mondialisation des marchés, les défis que Montréal doit relever sont énormes, mais en 350 ans d'histoire, ses habitants en ont vu d'autres. La force de cette ville tient assurément d'abord à l'esprit d'initiative et d'inventivité des Montréalais, qui ont toujours été tournés vers l'avenir tout en s'inspirant profondément de leur passé. En témoigne avec éloquence le bouillonnement intellectuel qui se traduit par une recherche novatrice et féconde dans tous les domaines de l'activité humaine. Première ville française d'Amérique, l'une des quatre grandes villes du continent à pouvoir se targuer d'avoir plus de 3 siècles, Montréal entend préserver son visage français tout en s'enrichissant de l'apport des traditions et des cultures que représentent des immigrants venus de tous les horizons. Montréal constitue un milieu de vie unique, comme se plaisent à le constater ses visiteurs qui y trouvent aussi un carrefour ou un lieu de rencontre entre l'ancien et le nouveau monde. Fier de ses origines et riche d'un passé unique en Amérique du Nord, Montréal n'a pas à se chercher une âme, mais à perpétuer et à adapter en permanence celle qu'elle possède déjà, dans une fidélité toujours inventive, comme viennent d'en témoigner les principaux acteurs de son histoire des 60 dernières années.